France Culture, il est 11h, tout de suite, Émilie Aubry.
Merci d'être avec nous sur France Culture. Dimanche 11h, c'est l'heure de l'esprit public à un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du jour, l'écrivain et ancien membre du Conseil constitutionnel Dominique Schnapper, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine et le journaliste Gérard Courtois. Bienvenue à vous, cher Quatuor. Nous consacrerons toute notre émission à l'analyse du scrutin de dimanche dernier avec deux questions. Parti socialiste, Parti Les Républicains, fin de partie, et puis les extrêmes droites en Europe ont-elles vraiment gagné ? Mais avant cela, bien sûr, consacrons le début de cette émission à la disparition de Michel Serres, philosophe, écrivain, épistémologue et académicien. On a appris son décès hier soir, il avait 88 ans et s'est éteint, selon son éditrice, paisiblement, entouré de sa famille. Michel Serres était reconnu comme l'un des meilleurs vulgarisateurs de la philosophie dont il disait qu'elle ne servait à rien et servait à tout. Michel Serres, qui n'était pas un philosophe hors du monde ou dans son monde, il avait à cœur de participer aux débats de société et de son de ses époques. Présent dans les médias, adorant enseigner à la Sorbonne ou à Stanford, Michel Serres était un philosophe de la transmission. Il a notamment beaucoup écrit sur le corps et les cinq sens, mais aussi sur la violence, dont il disait qu'elle était au cœur de la plupart de ses livres. Michel Serres, philosophe généraliste, comme il se nommait lui-même, qui se passionnait aussi pour les questions d'éducation, d'écologie, de technologie. Et récemment, on avait pu entendre sa voix au beau milieu de la campagne des européennes pour témoigner encore et toujours de ce qu'était l'Europe à ses yeux. Pour lui, qui était né en 1930, l'Europe, c'était d'abord, avant tout et plus que tout, la paix.
Je suis né en 1930, dans le sud-ouest. La première chose que j'ai connue, ça a été les réfugiés de la guerre d'Espagne. Des blancs et des rouges qui nous racontaient les horreurs qui se passaient. Ensuite, ça a été 1939, la grande débâcle, les gens venus du Nord qui débarquaient dans mon pays. Et là, j'ai connu aussi des gens qui étaient dans la misère absolue, vous voyez, dans le désespoir, le dénuement absolu. Puis ensuite, il y a le développement de la guerre avec toutes les horreurs que vous imaginez. Puis ensuite, les guerres coloniales. Donc, si vous voulez, entre ma naissance et mes 30 ans, ça a été la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et par conséquent, j'ai eu une admiration éperdue pour la paix que nous a procurée l'Europe. Vous voyez, au fond de mes rides, il y a ce malheur-là. Il ne me quittera jamais. Et dire qu'il y a des gens qui sont pour le départ de l'Europe, mais ils sont fous, quoi. C'est-à-dire, chaque fois que je me regarde à la glace le matin, que je me rase, je dis, Michel, nous sommes en paix.
Bonjour Dominique Schnapper.
Bonjour Émilie.
Quelle image vous conserverez de Michel Serres ?
Michel Serres, c'était un essayiste au sens positif, totalement positif du terme, enfin dans la lignée Essai de Montaigne, c'est-à-dire qu'il s'intéressait à énormément de sujets. C'était un homme de culture et qui s'intéressait aussi beaucoup au monde contemporain. Nous avons eu des élèves en commun et je crois que c'était un professeur très... très chaleureux et très généreux. Ce qui est intéressant dans sa carrière, c'est que son expérience du XXe siècle, de son expérience politique du XXe siècle, il a gardé, non pas, ou il a transmis en tout cas, je ne sais pas dans son fort intérieur ce que c'était, mais enfin il a transmis non pas le tragique de la Shoah, mais le caractère exceptionnel des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Il nous a répété très souvent, on n'a jamais connu une période où les sociétés ont été aussi pacifiques, aussi riches, aussi libres et aussi tolérantes. Et donc, ce rappel continu qui traverse toute son œuvre, je crois, était extrêmement utile pour les jeunes générations dont la conscience historique n'a pas été suscitée par les événements du XXe siècle. Et alors, cette voix chaleureuse et cette personnalité généreuse manquera.
Une espèce de philosophie joyeuse qui explique peut-être beaucoup, Aurélie Filippetti, l'émotion que l'on ressent ce matin et l'affection profonde finalement qu'un nombre considérable de Français avait pour ce philosophe accessible qui se disait lui-même, qui assumait de dire qu'il était un généraliste, un vulgarisateur.
Oui, c'est ça, on pourrait dire peut-être que Michel Serres contredisait la phrase de Gramsci, c'était l'optimisme de la raison en fait, Michel Serres. Et il avait une pensée vibrillonnante, touche à tout, et qui allait finalement explorer des terrains d'aventure intellectuelle sans cesse nouveaux. C'était aussi quelqu'un de très généreux dans son approche du monde intellectuel. Le Monde rappelait qu'il commençait parfois ses cours en disant « ce que vous allez entendre ici va changer votre vie ». Eh bien, il croyait, il était porteur de ce message-là que oui, la philosophie, la pensée peuvent changer la vie.
Gérard Courtois.
Ça m'offre l'occasion de confesser une bourde de blanc-bec que j'avais commise il y a de longues années en arrière. Je m'occupais à l'époque au Monde des questions d'éducation. Michel Serres avait publié un livre sur l'éducation pour explorer la manière dont les nouveaux outils de communication, l'informatique, etc., allaient bousculer en profondeur la pédagogie et l'enseignement. Et j'avais pris ça de très haut. Je me souviens du titre dont j'étais évidemment très fier. J'avais titré ça le philosophe perché, comme le baron perché de Calvino. Rétrospectivement, je me dis que j'aurais pu m'abstenir.
À 11h06 dans ce studio, c'est bien pour c'est d'avoir solution, fait. C'est bien d'avoir fait après la messe. D'avoir fait ce mea culpa, Hubert Védrine, rapidement.
Je suis embarrassé parce que je trouvais que c'est un homme merveilleux. Je l'ai connu un peu. J'adorais sa voix. C'est très bien d'avoir qu'on ait pu entendre sa voix. Et puis cette façon d'être pétillant dans la pédagogie, tout ça, formidable. Mais je ne suis pas d'accord avec c'est le seul point de désaccord que j'ai, c'est son explication sur l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix. C'est les Soviétiques en résistant aux nazis à Stalingrad, et c'est le débarquement. Et l'organisation de la paix en Europe après, ce n'est pas les Européens. C'est d'abord le plan Marshall, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, etc. etc. Donc l'Europe, c'est la fille de la paix. C'est pas la mère de la paix. Les Européens ont fait un usage très intelligent, après, collectivement, en tout cas à l'Ouest, en attendant les autres, de cette paix-là. Et alors c'est important parce que, comme sans arrêt on revient à ça, et que dans les slogans qui déjà n'avaient aucun effet en 1992, au moment du référendum de Maastricht, l'Europe c'est la plaie, blablabla, ça ne marche pas. Donc il faut revenir à une définition historique et chronologique exacte, pas pour le plaisir de couper les cheveux en quatre, mais pour mieux comprendre les mécanismes d'aujourd'hui. À part ce point, en fait, de détail, en réalité.
C'est un détail, Dominique Schnapper. Vous n'avez pas l'air de considérer que c'est un détail.
Non, nous avons l'occasion de revenir sur cette discussion. J'ai aussi souvent entendu mon ami Pierre Manant dire « Mais non, c'est pas l'Europe qui a fait la paix, c'est la paix qui a fait l'Europe. » Et je pense que c'est un petit peu plus compliqué tout de même, bien que les conditions géopolitiques aient été essentielles à l'époque, j'en suis d'accord.
Et bien voilà, en effet, qui lance la thématique de cet esprit public ce matin sur France Culture. Je précise juste que je vous recommande chaleureusement d'aller faire un tour ce dimanche sur franceculture.fr où vous retrouverez un dossier complet sur Michel Serres et toutes ces heures d'entretien qu'il a offertes à France Culture au micro d'Adèle Van Rett, encore tout récemment, mais aussi une masterclass, un numéro d'Avoix Nues. Voilà de quoi rendre hommage à Michel Serres ce dimanche. Et en effet, à présent, intéressons-nous précisément à cette Europe que défendait avec vigueur, on l'a entendu à l'instant, Michel Serres. Après les élections de dimanche dernier, Parti Socialiste, Parti Les Républicains, est-ce la fin de parti ?
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Imaginez la soirée électorale morose qu'auraient pu passer ensemble dimanche dernier François Hollande et Nicolas Sarkozy, tels deux patriarches s'affligeant des scores de la jeune génération, François-Xavier Bellamy et Raphaël Glucksmann, et se remémorant de concert avec nostalgie leurs exploits d'antan, leurs résultats d'autrefois lorsqu'ils étaient à deux chiffres. Pourtant, certains avaient déclaré que ce score des socialistes français au-dessus de 5% était un soulagement, voire un espoir. Mais cela disait tout de la relégation symbolique du Parti Socialiste au statut d'acteur mineur de la politique française, quand deux ans auparavant, ce même score de 6%, en l'occurrence celui de Benoît Hamon à la présidentielle, avait été analysé, lui, comme une catastrophe. Mais sans doute plus dure et plus traumatisante encore avait été dimanche dernier la soirée des Républicains. Cette droite, emmenée aux européennes par un philosophe ultra-conservateur au regard d'enfant. La droite est de retour, la campagne a été époustouflante, on a retrouvé l'espoir, avait-on entendu dans les meetings et les médias, jusqu'à la douche froide du score final, 8,5% des voix, soit plus de 12 points de moins qu'en 2014. PS, PR, fallait-il dès lors décréter la fin de parti pour ces deux pivots autour desquels nous avions vu tourner la vie politique française depuis tant d'années? Était-ce une affaire de leader? Était-ce une affaire de corpus idéologique? Était-ce une affaire d'époque qui semblait jeter les clivages traditionnels avec l'eau des partis?
Dans cette campagne où tout a été fait pour la réduire à un duel, Rassemblement National contre En Marche, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix. Et ce résultat n'est évidemment pas à la hauteur des espoirs soulevés dans cette campagne. Nous savons bien sûr, depuis 2017, que la reconstruction sera longue et exigeante pour retrouver le chemin de la confiance avec les Français. Je veux dire pour autant à tous nos colistiers, à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette campagne et surtout à François-Xavier Bellamy, ma profonde reconnaissance.
Oui, nous avons fait un score plus élevé que ce qui nous était annoncé et promis. Mais ce soir, le temps n'est pas à la fête, parce que le Rassemblement National est la première force politique du pays. Et pourtant, ce qui s'est passé ce soir, c'est un message extrêmement clair. La gauche en France n'est pas morte. Simplement, l'éparpillement et le morcellement, eh bien, l'empêchent de devenir une alternative crédible.
Et vous aurez reconnu sans doute Raphaël Luxman et Laurent Wauquiez dimanche dernier. Gérard Courtois, qui doit s'affliger le plus une semaine après ces élections européennes? C'est la droite ou c'est la gauche française?
Ah, si la question est posée comme ça, c'est évidemment la droite. La droite, enfin si je résume, la droite n'a plus d'espace. Elle est réduite. Il y a un chiffre que j'ai trouvé absolument stupéfiant. François-Xavier Bellamy a recueilli 1 900 000 voix. C'est exactement le nombre de voix recueillies par François Fillon au premier tour de la primaire. C'est-à-dire que la droite a été ramenée à ce socle qui était celui initial de François Fillon, une droite conservatrice, catholique, provinciale. Donc une droite rétrécie, une droite, si je puis dire, à l'os, qui n'a plus de projet et qui n'a plus d'alliés, qui n'a plus de projet stratégique parce qu'elle est coincée entre le Rassemblement National et la République En Marche, et qui n'a plus d'alliés. Alors que la gauche, elle a beau être en vrac, éparpillée, réduite à une collection de, j'allais dire, de micro-partis, enfin qui sont tous entre 2,5 le Parti communiste et 6,5 la France insoumise, je mets à part et dans une position singulière les écologistes. Voilà, ils sont réduits à cette collection de petits partis qui plus est avec beaucoup de placards remplis de cadavres entre eux, mais ensemble et avec les écologistes, ils représentent ensemble, disons, le socle social, écologique et européen, c'est-à-dire PS, Hamon et les écologistes, c'est 25%. Si on y rajoute la France insoumise et le Parti communiste, ça fait 33%. Donc il y a un vrai espace à reconstruire. Qui pourra en prendre la responsabilité? Qui sera la force propulsive de cette reconstruction sur les terres de ce qu'on a appelé depuis des décennies la gauche? Ça, c'est le point d'interrogation. Mais il y a un espace et un avenir possible. À droite, on ne voit pas l'avenir.
Alors précisément, commençons par nous intéresser au sort de la droite française qui est à la une de tous vos journaux ce matin, en une du journal du dimanche, avec le visage d'Emmanuel Macron et ce titre, son plan pour achever la droite. Il souhaiterait une confédération pour attirer des opposants. Et puis tout un article qui nous explique qu'en vue des municipales, Emmanuel Macron notamment a un plan. C'est vrai qu'on a pu entendre aussi cette semaine l'opération lancée par Gérard Larcher pour reconstruire la droite modérée. Et puis à la une du Parisien ce matin, la droite cherche électeurs désespérément. La droite aujourd'hui, Dominique Schnapper, la droite modérée française, c'est le macronisme?
Je crois que Gérard l'a dit très clairement et ça me paraît s'imposer. Quand on sait que 27% des électeurs de Fillon au premier tour ont voté pour la liste Renaissance, que déjà une partie de la droite jupéiste, disons grosso modo la droite républicaine, avait votait déjà pour Macron. On voit que ce chiffre d'1,2 million vous a frappé.
1,9 million.
Moi, c'est le chiffre d'1,2 million qui me frappe beaucoup parce que c'est en gros la manif pour tous. C'est vrai, c'est une survivance d'un monde qui n'a aucun avenir dans le monde actuel, quels que soient les sentiments qu'on ait pour lui. Et donc, effectivement, la droite, disons, qu'on appelle aussi républicaine, elle vote Macron, c'est clair. Une partie des électeurs de Macron, d'ailleurs, ont voté vert, eux. Il y a eu
un déplacement.
Une translation. la droite identitaire, si on veut, elle vote plutôt Rassemblement National, la vieille expression que l'original vaut mieux que la copie s'applique tout à fait. Donc elle est prise en étau et elle n'a en gros pas plus de place. Alors Rachida Tati expliquait les valeurs de la droite. Alors on lui demandait ce que les valeurs de la droite, la responsabilité, le courage. Macron les porte tout aussi bien que la droite.
Mais est-ce que c'est pas un échec pour Emmanuel Macron qui pensait dépasser ces clivages-là, justement? Ce que vous êtes en train de nous expliquer ce matin, 11h15 dans ce studio, c'est qu'en réalité, la nature ayant horreur du vide, on revient à quelque chose d'assez classique, finalement. En fait, la droite aujourd'hui est à retrouver dans le macronisme, la gauche est à reconstruire, mais le socle existe.
C'est pas la droite, c'est des gens qui se réfèrent à et qui votaient pour les partis, disons le parti de droite républicaine. Il y avait à l'intérieur du parti républicain deux morceaux extrêmement différents qui n'avaient un morceau vote Macron et l'autre morceau risque de voter du RN. Et il reste les 8, je crois que c'est 8,2, 8,4.
Un peu plus du pourcent, ouais.
Oui, d'électeurs. Cela dit, le problème à gauche est un peu différent. Parce que si on fait cet ajout, cette somme que vous avez faite des différents votes à gauche, on a aussi des gauches très différentes. Quand on peut pas ajouter, si je puis dire, Hollande, Le Drian, Cazeneuve d'un côté et la France insoumise de l'autre. C'est tout aussi différent que les deux parties de la droite. Et d'autre part, les Verts qui, dans d'autres pays européens, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure, sont en train de prendre la place des sociaux-démocrates, posent un problème particulier à ce qui était les partis de gauche auparavant. Donc la gauche qui garde apparemment plus un espace en France est aussi si fragmentée. Mais pas fragmenté parce qu'il y a des égos des hommes politiques, ce qui, ça est normal, les hommes politiques ont des égos. Mais parce que, d'une certaine façon, tout ce qu'ils ont porté a été réalisé par nos sociétés. Je veux dire, ils ont porté la laïcité, la République, puis l'État-providence. Ben, nous sommes dans des sociétés républicaines, laïques et État-providence. Et ils n'ont plus, en dehors de...
Faut dire qu'ils n'ont plus de valeur ajoutée, c'est ça que vous êtes en train de nous dire?
Ils ne portent pas quelque chose sur lequel puissent se retrouver tous ceux qui se réclament de la gauche ou qui votent pour des partis qui se disent de gauche.
Vous êtes d'accord avec cette analyse, Aurélie Filippetti? Est-ce que ça signifie aujourd'hui que le pivot pour la reconstruction de la gauche, c'est l'écologie et c'est celle d'Europe Écologie Les Verts?
En tout cas, si la gauche a fait, si le Parti Socialiste, enfin Place Publique a fait ce score, qui est évidemment mauvais, c'est pas à cause de l'émiettement de la gauche. L'émiettement de la gauche et le résultat, en quelque sorte, d'une espèce de vacuité idéologique aujourd'hui de ce qui devrait incarner la social-démocratie. Et les Verts, en revanche, eux, ont une clarté idéologique qui a été au fond saluée par les électeurs dans cette élection. Les électeurs ne se sont pas trompés d'élection. Ils ont voté pour un Parlement européen et ils savent que les Verts, les députés européens, et ça fait maintenant 20 ans, au Parlement européen, portent la voix de l'écologie. Donc, ils ne se sont
C'est-à-dire
pas trompés
qu'ils proposent une vision systémique, une vision globale.
Claire, une vision claire, une vision
ils
systémique.
Proposent
une vision,
quelque chose.
Ils proposent quelque chose, exactement. Donc, je trouve que c'est trop facile de la part de certains responsables de gauche de dire « Ah oui, non, mais en fait, on pèse 30%, c'est à cause de l'émiettement ». Donc, en gros, on rejette encore une fois la faute sur les électeurs. Les électeurs seraient irresponsables, mais pas du tout. Les électeurs ont fait le choix de voter pour ceux qui, au fond, dans l'horizon de la gauche, avaient le projet le plus clair, et notamment pour l'Europe. Et ça, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça veut dire qu'au fond, la reconstruction d'une forme de social-démocratie écologique, elle doit avant tout passer par le terrain idéologique. Et ça, pour l'instant, on n'en voit pas l'embryon. si ce n'est effectivement qu'il y a ce socle idéologique des Verts qui est solide, lui.
Hubert Védrine, vous êtes d'accord avec cette idée-là que la social-démocratie n'a plus grand-chose à proposer sans l'écologie, comme le disait Dominique Schnapper et d'une certaine manière aussi Aurélie Filippetti?
Elle a gagné.
Oui, je suis d'accord, mais elle ne va pas annexer l'écologie. Hein. C'est pas possible.
Non.
Moi, je n'écarte pas l'hypothèse que la structuration droite-gauche qui remonte à la Révolution et puis à la, disons, la réponse marxiste à la Révolution et puis toute l'histoire du XXe siècle s'épuise finalement. Donc je ne crois pas à la perpétuation millénaire du clivage. Je peux me tromper, j'en sais rien, mais je le ressens comme ça. Conjoncturellement, je ferai une remarque peut-être un peu choquante, c'est que l'état de la droite est l'aboutissement du fait que personne à droite, peut-être sans doute pour des raisons louables, n'a été capable de faire avec l'électorat Front National ce que François Mitterrand a fait avec le communisme. Bon, évidemment, c'est très très compliqué, sans doute indéfendable, etc., mais en tout cas, en effet, il y a plus d'espace. Donc je crois que ce que nous vivons avec la social-démocratie, c'est un peu comme l'épuisement du Parti radical, qui avait été le maître de la Troisième République, en partie de la Quatrième, que ça va aboutir à autre chose. Autre chose de fixe, je ne crois pas non plus. Parce qu'on est dans une époque très individualiste, réactive, quotidienne, de versatilité politique, et donc électorale. Je pense que c'est l'écologie qui va être déterminant, beaucoup plus que l'histoire des systèmes des sociétés ouvertes ou fermées. Ça, c'est une simplification, parce que personne n'est pour l'ouverture à tout vent et personne n'est pour la fermeture complète, qui est impossible. Donc c'est un peu entre les deux. Par contre, l'écologie, à quel rythme et comment va-t-on écologiser, faire la transition? Je pense que ça va dominer de plus en plus. Il y a des phénomènes de panique qui vont se développer par rapport à ça. Les gens trouveront que ça ne va pas assez vite, qu'il faut un despotisme au début, une dictature ensuite, pour imposer ce que les gens ne veulent pas, enfin pas assez vite. Ça va être très très structurant. D'abord en Europe, puis dans d'autres pays. Mais on verra arriver en effet des verts de gouvernement, des verts, etc. Donc je pense que ça va être plus fort. Il restera des miettes de droite, des miettes de gauche, s'agrégeant à ceci ou cela. Mais c'est plutôt les écologistes qui n'auront pas le monopole non plus de ce grand mouvement vers l'écologie, parce que tout le monde le sera, plus ou moins, qui vont se poser la question, est-ce que je récupère ou pas ce qui a survécu de social-démocratie ? Dans le rapport de force aujourd'hui, c'est plutôt comme ça que ça se présente, plutôt que l'inverse. Donc je pense qu'on vit un vrai changement.
Gérard Courtois, vous croyez vous aussi à cet émiettement durable de l'offre politique française, au retour d'un clivage droite-gauche, au contraire à son dépassement définitif? Et qu'est-ce que vous répondez à Hubert Védrine lorsqu'il explique que naturellement, il y aurait presque une logique à ce que la droite poursuive sa recomposition en allant vers les extrêmes?
C'est une occasion manquée d'avant, pour eux.
Lorsque vous parlez de revenir sur ce terme d'occasion manquée, alors...
D'abord, juste pour revenir d'un mot sur ce que disait Dominique Schnapper, effectivement, la droite est accrochée à ses valeurs, avec trois paires de guillemets, mais c'est tellement flou que ça ne fait pas un projet. Elle clame les « mes valeurs, mes valeurs, mes valeurs ». Et la gauche est accrochée à ses acquis, ce que disait au fond Aurélie Filippetti, à ses acquis, mais ça ne dessine plus un avenir. Et effectivement, les seuls qui dessinent un avenir dans cet espace-là politique, ce sont les écologistes. Alors, le clivage droite-gauche... Moi, je partage assez l'intuition ou le sentiment d'Hubert Védrine, c'est qu'on n'est plus là-dedans. Et l'élection européenne, le scrutin européen a confirmé le chamboulement de 2017. On est sur, au fond, une structuration autour de deux forces qui sont clairement identifiées, le Rassemblement National et la majorité présidentielle autour de Macron, libéralisme qui au fond mène la politique que la droite a toujours prônée et n'a jamais réellement engagée, et puis un espace...
Et que la gauche a partiellement mené aussi.
Et que la gauche a partiellement mené. Et puis un espace qui est, je dirais, en devenir, et où effectivement les écologistes sont... Un, ceux qui sont dépositaires de l'espoir d'un électorat orphelin, et deux, porteurs d'un projet capable de structurer un projet d'avenir. Après, quand on a dit ça, on bute sur des problèmes d'organisation, des problèmes de doctrine et des problèmes d'alliance aux européennes. On se compte, il y a un seul tour, c'est à la proportionnelle, c'est simple. Dans les élections à venir, évidemment à la présidentielle, au municipal et au régional, départemental et encore plus à la présidentielle, la question des alliances est essentielle. Donc,
Vous voulez dire que l'heure de vérité, la grande clarification, c'est pour le coup d'après, Aurélie Filippetti ?
Moi, je suis... Paradoxalement, je trouve que ce résultat n'est pas de mauvaise augure pour la gauche, appelons-la comme ça, cher Hubert, pour les municipales. Pourquoi ? Je prends un exemple, qui est une figure qui était sur la liste des Verts, qui est Damien Carême, qui, je crois, qui était cinquième, je crois, sur la liste, qui a été élu député européen. C'est le maire de Grande-Synthe. Et lui, il vient du Parti Socialiste. Aujourd'hui, il est écologiste. Il a fait une politique absolument formidable dans sa ville, aussi bien, je dirais, d'un point de vue social que d'un point de vue environnemental, sans compter l'accueil des réfugiés qu'il a organisé. Et, au fond, il montre qu'il est possible de faire une politique écologique à partir justement d'un idéal de justice sociale. Et je crois que c'est ça l'enjeu pour la gauche. Pourquoi ? Parce que finalement, ceux qui ont déserté le terrain des partis politiques traditionnels, là, dans cette élection européenne, ce sont les classes populaires, les ouvriers et les employés, qui se sont d'abord massivement abstenus, hein, il faut le dire, c'est-à-dire que le premier parti des ouvriers, c'est pas le Rassemblement National, c'est l'abstention, et ensuite qui sont allés à 40% de ceux qui ont voté vers le Rassemblement National. Or, ce sont eux, justement, qui sont l'électorat naturel, c'est à eux que doit s'adresser la gauche. Et une gauche écologique qui saurait reconquérir, justement, cet électorat, c'est ça l'enjeu.
Ce matin, vous dites la gauche, Aurélie Filippetti, l'écologie, mais il y a un mot que vous ne prononcez pas, c'est celui de socialiste. Vous qui avez été élu socialiste pendant longues années, qui avez été ministre d'un gouvernement socialiste, ça veut dire que, ça y est, vous avez fait une croix sans état d'âme sur cette maison-là.
Mais moi, j'ai fait une croix sur le Parti Socialiste. Quand vous avez commencé, Émilie, votre introduction en disant « Ah, si François Hollande et Nicolas Sarkozy voyaient ça, etc. »
Mitterrand et Chirac
aussi. Il faut se rappeler que François Hollande et Nicolas Sarkozy, tous les deux, sont en quelque sorte parmi les responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Et il ne faut pas les dédouaner. Et chacun d'entre eux, quand il était président, a connu des résultats catastrophiques pour son parti, notamment aux élections européennes et à toutes les élections intermédiaires. Donc, au fond, je pense que le Parti Socialiste, aujourd'hui, n'a plus d'espace parce qu'il est l'héritier de cette occasion manquée du quinquennat de François Hollande. Donc, donc, il faut le reconstruire un idéal écologique.
Mais sur quel pivot ? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Écologie Les Verts, la vie politique se structure autour de partis, de leaders, autour de... Il y a Yannick Jadot de relancer la gauche.
Dans les élections municipales, la question ne sera pas tant celle de l'appartenance partisane de tel ou tel candidat que du projet et de l'arc, en quelque sorte, qui saura se constituer autour de ces candidats. À Paris, Anne Hidalgo travaille déjà avec une majorité qui est avec une forte composante écologique et a une politique très fortement tournée vers l'écologie. Donc la question n'est pas de savoir si elle appartient au Parti Socialiste ou à je ne sais quoi. La question, c'est le projet et comment, au fond, on fait en acte cette alliance de l'écologie et de la social-démocratie.
Vous aussi, Hubert Védrine, aujourd'hui, cette histoire socialiste ou cette maison socialiste, vous la rangez au placard ?
Je constate, comme tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tentatives intéressantes des uns ou des autres, mais je ne crois pas qu'il y a la capacité, que quiconque ait la capacité à rassembler tout ça. Je pense que c'est des pommes et des poires. Donc l'agrégation, l'addition, à mon avis, ne fonctionne pas, en tout cas pour longtemps. Et je pense qu'entre-temps, il y aura une question beaucoup plus aiguë qui aura pris le dessus, qui est à quel rythme va-t-on écologiser ? C'est là-dessus que se feront les clivages. Alors je pense que le lien social-écologie, il est important, mais il n'est pas central en réalité. Alors là, je me sépare de ce que disent beaucoup de sociodémocrates qui veulent se rattacher à la bouée écologie. Parce qu'en réalité, c'est pas ça qui va aider les Chinois et les Indiens à sortir plus vite du charbon. C'est pas ça qui va faire sortir les Allemands, qui sont sortis très prématurément du nucléaire, qui essaient maintenant de sortir du charbon. C'est très compliqué. Les Polonais. C'est pas ça qui va réussir à... C'est que l'on ait une agriculture très bio, le plus bio possible, mais en même temps très productive. On a fait le contraire depuis 50 ans ou 70 ans. C'est d'autres choses. C'est pas ça qui fait. On aura des batteries électriques avec une durée extraordinaire qui va révolutionner toute l'industrie, tout le. Bon. Ça, c'est très important. Il y aura des percées dans les années qui viennent. Il y aura des débats, en général pas en Europe d'ailleurs, parce que ça se joue plutôt ailleurs. Alors bien sûr, il y a une dimension sociale pour que les gens les plus faibles dans les sociétés puissent suivre le mouvement. Mais ça concerne une petite partie du mouvement de l'écologisation. Des tas de choses qui ne dépendent pas de ça, donc il faut le traiter bien. Mais ce n'est pas non plus la solution miracle. C'est pour ça que je redis que je pense que les débats vont se structurer autour des modalités et du rythme de l'écologisation, de l'influence que peuvent avoir les gentils européens qui sont plus conscients de ça, parce qu'ils n'ont pas de vrais problèmes en réalité, par rapport aux autres parties du monde qui en ont. Là, il y aura des débats très, très... Est-ce que ça va être des structurations durables ? Je redis ce que j'ai dit, versatilité politique. Même là-dessus, je ne crois pas que ça va structurer quelque chose. Donc, on peut analyser la conjoncture. Aurélie n'a pas tort sur les municipales, par exemple, je suis d'accord. Mais si on regarde dans le mouvement long, je ne crois pas à une restructuration permanente.
Alors, en effet, si on regarde au-delà de nos frontières, on constate aussi une remontada de la social-démocratie dans d'autres pays, pas très nombreux, mais dans d'autres pays malgré tout. Alors, Raphaël Glucksmann aime à se réconforter en regardant notamment comment va la social-démocratie en Espagne, en citant beaucoup Pedro Sanchez, Dominique Schnapper. Donc, qu'est-ce que ça dit aussi de cette social-démocratie européenne, le fait qu'elle ne connaisse pas le même destin selon le pays dans lequel on organise les élections ?
C'est-à-dire, avant de passer au problème européen, je voudrais tout de même qu'on dise un mot du Rassemblement national, parce que nous avons parlé là des anciens partis qui sont décomposés, et le résultat de ces élections présidentielles, c'est d'un côté que la liste du président de la République a eu un résultat qui était supérieur à tous les résultats que les présidents de la République ont obtenus, sauf en 1979, c'était la première fois, c'était Madame Veil, et en 2009, où Sarkozy... Dans l'élan de l'élection Sarkozy, l'UMP a été première. Donc il y a eu une confirmation de la transformation de la scène politique. Mais d'autre part, le Rassemblement national, on dit qu'il n'a pas augmenté en pourcentage, mais comme la participation a été plus élevée, on ne l'a pas noté. En fait, c'est de l'ordre de 600 000, hein, quelque chose comme ça, électeurs de plus qui ont voté pour le Front National. Et ce qui est très frappant, c'est que les électeurs peuvent passer d'un parti, des autres partis de l'un à l'autre, je veux dire, on peut voter successivement même Fillon, Macron vert, etc. Mais les électeurs du Front National sont les plus stables et les plus convaincus et les plus résistants. Et ça, c'est tout de même un problème important.
Même s'il y aura deux élus en moins pour le Rassemblement National qu'il y en avait en
2014. Oui, parce qu'il y a une question de pourcentage, mais comme il y a une participation. Et d'autre part, je suis frappée sur le problème des jeunes. Les jeunes, au fond, ne respectent pas ou ne sont pas convaincus par les règles de la République représentative. Ils ont très peu voté aux élections présidentielles. Ils ont beaucoup voté pour la France insoumise. Et là, ils ont beaucoup voté pour les Verts. C'est-à-dire qu'ils votent en dehors des partis organisés, qu'ils soient traditionnels ou qu'ils essayent de se réorganiser comme la République en marche. Et donc, et aujourd'hui, il y a une enquête très intéressante qui a été faite par la Fondation de l'innovation politique, où on voit que 37% d'entre eux admettent tout à fait disent qu'il serait souhaitable d'avoir un État fort sans tenir trop compte des élections et du Parlement. Alors, quoi qu'on en pense sur le fond, ce décalage de la jeune génération avec les règles de la République représentative est quand même un fait qu'il ne faut pas sous-estimer.
Alors, en effet, pour finir cette première partie, Gérard Courtois, à la fois sur ce vote jeune des moins 35 ans qui s'est majoritairement porté sur le vote vert, et puisque je disais à l'instant sur la social-démocratie, et notamment le contre-exemple espagnol, en tout cas si on compare à la situation française.
Deux petits codicilles, je voulais prolonger ce que disait Dominique Schnapper. Il y a effectivement, et c'est indéniable, et il ne faut pas l'oublier évidemment, un enracinement du Rassemblement National.
Enracinement des partis en ce moment.
Oui, les deux tiers des circonscriptions législatives, dans les deux tiers des circonscriptions législatives, le Rassemblement National est arrivé en tête. La droite dite républicaine a encore aujourd'hui 134 circonscriptions législatives, LR républicain et UDI réunis. Ils ne sont arrivés en tête dans aucune, mais le Rassemblement National est arrivé en tête dans 110 et les macronistes dans 24. Donc l'enracinement, il est évident. Il est évident aussi territorialement vers des territoires, notamment à l'ouest ou au sud-ouest, où ils étaient très largement absents. Le deuxième codicille, et ça rejoint un peu ce que disait Hubert Védrine précédemment sur la versatilité électorale, il faudrait pas commettre l'erreur de croire, et certains le font depuis une semaine, que le scénario de 2022 est écrit. Ça serait extrêmement imprudent. Le système politique a été, démoli, ou en tout cas décomposé. il n'est pas, à mon sens, encore recomposé. Le duo Paul Macron-Le Pen, ça pèse 45% de l'électorat, d'un électorat lui-même représentant 50% du total de l'électorat, des électeurs inscrits, un peu plus de 20% des électeurs inscrits. Ça n'est pas encore suffisant pour dire, comme vous le disiez tout à l'heure, Émilie, que c'est définitif. Mmh. Et l'aventure même d'Emmanuel Macron, il y a simplement 2 ans, démontre que les aventures singulières...
Nous sommes dans une époque mouvante.
Disruptive. Oui, dans une époque liquide, gazeuse, voire explosive. Donc, moi, je prendrai pas le moindre pari à ce stade sur ce qui se passera dans 3 ans.
Donc disruption acte 2, en attendant l'acte 3, Aurélie Filippetti, un dernier mot sur cette social-démocratie européenne.
Oui, moi je suis pas aussi pessimiste sur les jeunes que Dominique Schnapper, parce que je trouve que d'abord le fait que les jeunes soient portés vers l'écologie, c'est dans la lignée finalement de tous ces mouvements qui ont vu jour là en Europe et dans le monde, hein, pour une véritable prise de conscience de l'urgence écologique par la jeunesse, y compris parfois par des jeunes qui n'ont même pas l'âge de voter. Donc je crois que c'est absolument un signe plutôt de conscience politique et non pas de dépolitisation. Et puis d'autre part, la plus faible abstention que ce que l'on attendait, même si chez les jeunes elle reste quand même importante, mais c'est aussi la preuve que finalement les gens ne se sont pas détournés de cette élection, qu'ils ont voulu envoyer un message politique, d'autant plus que on l'a pas assez dit, je pense, mais le mode de scrutin avait changé. On revenait à une élection sur une liste nationale. Et donc, c'était une élection qui était plus politisée encore que par le passé. Et le fait que, finalement, les Français et les Européens soient allés massivement aux urnes est plutôt un bon signe de ce point de vue-là.
Pour la première fois, c'est une élection nationale qui avait de véritables enjeux européens. Ça n'était jamais arrivé.
C'est la constitution d'un espace public européen. Absolument. Qui s'est là concrétisé.
Alors, précisément, changeons d'échelle après les élections européennes. En France, regardons hors de nos frontières et scrutons avec particulièrement d'attention les résultats des extrêmes droites européennes. Qu'ont-elles vraiment gagné dimanche dernier ?
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Même quand il est plus de minuit, le nouvel homme fort de l'Italie, Matteo Salvini, ne résiste pas à donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, surtout un soir d'élection et après avoir obtenu le score mirifique de 35%. Dimanche dernier, il avait donc posté une photo de lui tout sourire avec une feuille de papier sur laquelle était écrit « Premier parti en Italie ». Merci. Mais dans son triomphalisme, Salvini allait peut-être un peu vite en besogne, car dans le reste du paysage politique européen était en réalité moins favorable à ce que pouvaient faire croire les déclarations tonitruantes du ministre italien. En tout, au niveau européen, la droite radicale obtenait environ 150 sièges au Parlement, un nombre qui ne permettrait pas de faire basculer à lui seul la majorité. Les droites radicales et extrêmes qui disposaient déjà de 155 sièges dans le Parlement sortant, si on additionnait le nombre d'élus des 3 groupes qui pouvaient être rattachés à cette tendance. Pendant la campagne, Matteo Salvini avait essayé de fusionner cette extrême droite européenne au sein d'un nouveau mouvement baptisé l'Europe du bon sens. Il avait notamment réussi à attirer l'extrême droite allemande, l'AFD, qui avait fait élire 11 élus dimanche, ou l'extrême droite finlandaise, 2 élus. L'alliance de M. Salvini comptait aussi sur les 28 élus du parti du Brexit de Nigel Farage, même si ceux-ci n'avaient pas forcément vocation à siéger toute la mandature. Mais à côté de ces belles prises, le reste du paysage était peut-être moins favorable. Avec environ 22 élus, le Rassemblement national de Marine Le Pen aurait en fait 2 élus de moins que ce que le FN avait obtenu en 2014. Aux Pays-Bas, le parti de la liberté de Geert Wilders s'était effondré. Même chose pour le parti populaire danois, qui n'avait plus qu'un eurodéputé, ou le FPO autrichien, affaibli par le scandale de la vidéo de son ex-leader Heinz Christian Strache. Mais malgré tout, il était difficile aujourd'hui de mesurer le tort que ces partis avaient eu le temps de faire ces derniers mois à la Maison Europe. Une Union européenne qui tenait bien debout à l'issue de ces élections, mais restait toujours lézardée, sans que l'on sache vraiment comment allait évoluer la grande copropriété de l'Union. Allait-on retarder les grands travaux? Et qui prendrait les commandes?
Le vote d'aujourd'hui signifie que les règles de l'Europe vont changer, pas seulement pour les décisions des Italiens, mais aussi pour les décisions des Français, des Allemands, des Anglais, des Hongrois, des Polonais, des Finlandais, des Suédois, des Danois. Une nouvelle Europe est née. La Ligue est le premier parti d'Italie. Marine Le Pen est le premier parti en France. Nigel Farage est le premier parti en Grande-Bretagne. Donc, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, c'est le signe d'une Europe qui change, d'une Europe fatiguée du pouvoir des élites, de la finance, des multinationales.
Matteo Salvini, dimanche dernier. Hubert Védrine, qu'est-ce que ces élections vont ou ne vont pas changer à la vie, au fonctionnement de l'Union européenne dans les semaines, les mois à venir ?
D'abord, il s'agit du fonctionnement du Parlement européen, de l'Union européenne en général, encore moins de l'Europe en général. Ça serait aussi faux de penser qu'à cause du résultat italien, tout le système va basculer sur la ligne Salvini, que de penser que la social-démocratie est sauvée en raison du résultat espagnol. Tout ça est tout à fait exagéré. Donc, d'abord, je pense qu'il faut pas mélanger. On parle des extrêmes droites, mais à mon avis, ça n'a aucun rapport avec les années 30. Aucun. C'est tellement facile, c'est tellement commode, c'est tellement, en même temps, paresseux de comparer que beaucoup de gens le font. C'est pas du tout la même situation. Ensuite, vous avez cité le chiffre, je crois, 150 sièges.
155.
Bon, c'est plus qu'avant. Bon, c'est pas énorme. Il y a 705 sièges si les Anglais sortent. Donc, on voit le rapport de force. Après, il faudrait distinguer dans le populisme, parce que c'est un fourre-tout, tous ces votes. Si les Italiens n'avaient pas été abandonnés en première ligne dans des accords de Schengen qui ne fonctionnent pas, qu'il faut faire fonctionner, il n'y aurait pas ce vote. Bon, il y aurait une sorte de combinaison à l'italienne dans un autre sens. Ça peut changer tout ça. Je pense que tout ça est traitable en réalité. Si les élites arrivent à entendre la demande d'identité, de maintien d'une certaine identité, de maintien d'une certaine souveraineté, demande de sécurité, sans considérer que c'est aussitôt dégoûtant, fasciste et compagnie. S'il y a une réponse qui est moins méprisante, plus intelligente, si c'est intégré dans la façon dont l'Europe change, pas dans le sens Salvini, hein, mais dans un autre sens, je pense que c'est tout à fait traitable par rapport à ça. Donc ma réponse immédiate, c'est que non, ça ne fait pas basculer. C'est une prise en compte qui ne tient qu'aux autres, hein. D'entendre ce message, parce que les gens qui ont voté pour ces partis, c'est des Européens aussi, hein. Il n'y a pas l'Europe d'un côté, et puis les bons citoyens d'un côté, les mauvais citoyens qui votent mal. Donc tout ça, c'est tout à fait audible. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre ça avec une certaine certain sang-froid, réagir intelligemment. Quant à Marine Le Pen, ça fait partie du tableau, mais elle est vraisemblablement au second tour, même si Gérard Couton a fait des réserves astucieuses, juste, et elle sera battue par la personne en face. Donc je pense que, quel que soit le score qui est solide, après tout, c'est des gens qui votaient communistes autrefois. Oui. Quand ils votaient communistes, ils n'étaient pas staliniens. Hein. Les gens qui votent pour le Rassemblement National, ce n'est pas des fascistes au sens années 30. Donc tout ça est traitable si on est intelligent dans la manœuvre politique.
Est-ce que,
Donc pas de grand basculement,
je crois pas. Est-ce que votre sang-froid, Hubert Védrine, est contradictoire avec ce que vous nous disiez tout à l'heure, Gérard Courtois, à savoir qu'il y a cet enracinement de l'extrême droite en France et peut-être des extrêmes droites en Europe ?
Enracinement évident, en Europe aussi, y compris parce que la droite radicale, appelons-la comme ça si on préfère, est au pouvoir en Italie, qu'elle est au pouvoir sous une autre forme en Hongrie ou en Pologne, qu'elle est alliée ou dans des alliances au pouvoir dans d'autres pays, l'Autriche en dépit des épisodes récents, qu'elle est, alors appelons-la, je ne sais pas, anti-européenne dans le cas de la Grande-Bretagne. Bref, il y a effectivement un enracinement. Il y a une poussée, il n'y a pas de percée, et ça c'est quand même essentiel. Vous citiez les chiffres, 155 députés sortants sur les trois groupes, et on sait que ces trois groupes sont extrêmement divers et contradictoires.
Cette fameuse internationale des nationalistes, dure à trouver.
Cette nébuleuse est une nébuleuse. Donc 155 dans le Parlement sortant, 172 aujourd'hui, ils retomberont à 150 quand les Brexiteurs seront sortis. Donc, C'est étiage sans changement. Et surtout, quand on a entendu pendant des mois Marine Le Pen pérorer sur « nous allons avoir la minorité de blocage », c'est-à-dire 250 parlementaires européens, si elle arrive à constituer avec Salvini un groupe de 70 ou 75 parlementaires, elle sera déjà, ça sera déjà conséquent et consistant. Ça sera autant que les écologistes. Mais on est extrêmement loin de l'ambition qu'elle avait de mettre un pied dans la porte et d'empêcher ou de paralyser ou d'embarrasser le travail du Parlement européen et au-delà de l'Union. Voilà, donc les deux sont vrais. Il y a un enracinement dans de nombreux pays européens. Il y a quelques reculs aux Pays-Bas, au Danemark, si j'ai bonne mémoire. Oui. Partout, ces forces, dans leur diversité, encore une fois. Et il y a ce que Jacques Lévy, le géographe, appelait l'urbanisation de la droite, qui me paraît problématique et inquiétante aussi, c'est-à-dire cette espèce d'infiltration de conception autoritaire, illibérale, etc., dans les idées et les doctrines des partis de droite, qui est également
problématique. On le retrouve même en France, dans ce rapport des jeunes à la démocratie que vous évoquiez tout à l'heure, Dominique Schnapper.
Ça n'est pas une percée, et je rejoins tout à fait ce que disait Hubert Védrine à l'instant. Je veux dire, si les quatre composantes majoritaires du Parlement, c'est-à-dire le PPE, la droite, les sociaux, les socialistes, les écologistes et les libéraux centristes, trouvent un dispositif, inventent un dispositif évidemment plus complexe, plus mobile, plus imaginatif que le duopole PPE-PSE précédent, voilà, il n'y aura pas. Mais on aura à Bruxelles et à Strasbourg, des parlementaires de droite radicale qui seront aussi absents et aussi inopérants qu'ils l'ont été ces dernières mandatures.
Donc en résumé, si je vous suis tous les deux, pas de grand soir pour l'Union européenne suite à ce scrutin de dimanche dernier. Néanmoins, Aurélie Filippetti, de nouveaux rapports de force, puisque le PPE et les sociaux-démocrates ne vont plus faire la pluie et le beau temps comme ils le faisaient auparavant. Il y a ce nouveau rôle, ce nouveau poids politique de la grande famille des Verts européens. Et puis il y a également l'inconnu de l'ALDE, le parti centriste libéral qui devrait accueillir les marcheurs. Et puis les grandes échéances à venir, c'est-à-dire tous les enjeux de l'élection à la présidence de la Commission, les présidents du Conseil et du Parlement qui seront eux aussi choisis avant l'été, le monsieur ou madame PESC, c'est-à-dire celui ou celle qui aura la charge de mener la politique étrangère européenne. C'est quand même malgré tout un tournant qui se joue pour l'Union européenne, en tout cas une nouvelle étape à écrire.
Oui, moi je trouve que c'est plutôt d'ailleurs, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Parce que certains disent fragmentation, émiettement du Parlement. Non, c'est la vie démocratique du Parlement européen qui va un petit peu s'animer. Et surtout, je pense que là, pour le coup, il y a beaucoup d'électeurs qui ont voté En Marche en France là et qui se sont dit finalement, il faut conforter Emmanuel Macron aussi à l'échelle européenne. Or, on va voir maintenant ce que va faire Emmanuel Macron face à Angela Merkel, parce que au fond le véritable enjeu dans c'est effectivement comme l'a dit Hubert Védrine, il n'y a pas que le Parlement européen, le véritable enjeu ça va être l'attribution des postes les plus importants, président de la Commission, etc. Donc là Emmanuel Macron doit s'affronter à Angela Merkel pour imposer une vision justement d'une Europe qui soit plus dynamique et plus à l'écoute aussi des revendications des peuples qui sont notamment dans le sud de l'Europe. Donc, est-ce qu'il va finalement sortir de ce qui, à mon sens, finalement fait beaucoup de tort à l'Europe, c'est-à-dire cette idée totem du couple franco-allemand, pour oser dire non, il faut qu'on construise une Europe différemment, donc en défendant des candidats à la présidence de la Commission, par exemple, qui auraient davantage de dynamisme et d'envie de changer les choses et d'incarner l'Europe réellement politiquement. C'est ça, en fait, l'enjeu des semaines à venir. Et je pense que on va voir justement, c'est une sorte de pierre de touche pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va réussir à s'imposer face à Angela Merkel?
Vous aussi, vous allez regarder ça avec appétit, Hubert Védrine, les nominations pour ces postes importants, en effet, de présidence de la Commission, du Conseil, du Parlement, monsieur, madame, politique étrangère.
Bien sûr que c'est important, mais ces élections sont importantes, les élections en France, en Allemagne, sont importantes dans chaque grand pays, c'est la combinaison qui est importante.
Qu'est-ce qui va vous intéresser dans cette combinaison, précisément? Cette nouvelle combinaison, qu'est-ce que vous allez regarder à la loupe?
Le successeur de Draghi à la Banque Centrale, d'abord.
Pour quelle raison?
Ensuite...
l'euro.
Mais expliquez aux gens qui nous écoutent ce matin.
D'un point de vue français, on a besoin d'une certaine compréhension.
Voilà.
pas un
comme
Allemand.
Comme on est un pays qui est tout à fait incapable d'équilibrer ses comptes, bon, historiquement, droite-gauche. Bon. Donc, ça serait important que nous, alors un Allemand, ça dépend du point de vue de l'Allemand.
Oui, ça dépend du point de vue de l'Allemand.
Schäuble, par exemple, ce serait un peu différent.
Donc, quelqu'un qui ne partage pas le point de vue de Schäuble. Voilà.
Bon. En tout cas, le succession de Draghi et la Commission, ça c'est très important. Mais je voudrais rebondir sur une remarque qui vient d'être faite sur la question du couple. Il y a eu un couple franco-allemand, c'est un terme un peu sentimental, un peu romantique.
Les Allemands ne disent pas couple, ils disent moteur.
Oui, alors non mais moteur, ça pourrait rester bien, mais l'expression couple qu'on entend en France, ça a fonctionné, c'était juste de Gaulle, même si c'est Giscard qui a mis en avant avec Schmitt le terme, hein, de Gaulle à Demeure jusqu'à Mitterrand-Kohl en gros. 40 ans, c'est pas mal pour un couple. Bon. Depuis, c'est fini. Ça fait très très longtemps que c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'on soit antagoniste, hein. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas cette espèce d'ardente obligation d'être d'accord dans une ambiance sentimentale fidèle et commémorative permanente. Bon, ça c'est terminé. D'ailleurs, même Schröder le disait il y a longtemps. Donc ça fait belle lurette qu'a pas le couple, qui a l'obligation pour la France et l'Allemagne de négocier pour se mettre d'accord, parce que ce sont deux pays qui spontanément sont à peu près d'accord sur rien, en dehors des acquis européens. Donc c'est un gros travail. Je trouve ça beaucoup plus sain que maintenant on le reconnaisse. C'est pas tragique, c'est pas dangereux, c'est juste normal. D'autant qu'il n'y a pas de solution de remplacement dans le fonctionnement du système européen. Je trouve ça très bien. Alors après, que peut faire Emmanuel Macron? Il faut remarquer que les grands discours très très européens, pour pas dire européistes, de la première année n'ont été soutenus par à peu près personne en Europe, notamment pas par l'Allemagne, que la lettre qui est passée trop inaperçue il y a quelques semaines du président Macron est beaucoup plus réaliste. Donc, notamment, il prend en compte la demande normale, en la calmant un peu, de la maîtrise de flux migratoires, mais des tas de choses très, très constructives. Et je pense qu'en effet, dans ce parti centriste, charnière, dans le Parlement européen qui va trouver une vie parlementaire qui n'existait pas avant, il peut y avoir en effet une influence. Et là, il aurait commencé à réussir son pari, complété ou pas par le bon résultat des tractations pour les grandes nominations. Donc, il y a un jeu qui s'ouvre, mais pas tellement pour faire le bond en avant. Il n'y aura pas de bond en avant fédéral en Europe. Il n'y aura pas de retour en arrière parce qu'aucun peuple ne veut lâcher l'euro qui est une bouée dans un océan démonté que le monde actuel. Donc c'est une sorte de, disons, de point d'équilibre qui est en train d'être recherché avec des perfectionnements multiples, mais sujet par sujet, politique par politique, projet par projet. Il faut arrêter la vision trop simplificatrice, le saut en avant, la régression, etc. Donc là-dedans, il y a un jeu intelligent à avoir par la France, oui.
Alors Dominique Schäuble, Hubert Védrine va regarder avec attention qui va remplacer Mario Draghi à la tête de la BCE. C'est vrai que là, on commence à lire dans la presse beaucoup d'articles sur la compétition qui va démarrer bientôt entre Manfred Weber, Michel Barnier, Margrethe Vestager. Est-ce que la question de l'incarnation, en effet, pour ces institutions européennes est importante et fondamentale quand on a beaucoup déploré une Europe sans visage et sans identité ?
Oui, je crois que quand toujours dans la politique, les personnes sont importantes. Et je voudrais revenir sur ce qu'on a dit avec sur le fait que il y a eu une conscience européenne, semble-t-il, qui s'est tout de même éveillée lors de cette élection. Et il me semble que c'est un peu la première fois qu'il y a eu à la fois des enjeux. Alors le Brexit, qui est certainement, de certains points de vue, une catastrophe, a peut-être été utile pour montrer aux Européens qu'il y avait un point de non-retour ou dont le retour aurait un prix impossible. Le retrait américain symbolisé par M. Trump, le sentiment du danger chinois, j'ai l'impression que toutes ces conditions globales ont donné une sorte d'élan et de conscience qui s'est traduit tout de même par une participation beaucoup plus étroite.
Est-ce qu'il est
Bah écoutez, il faut l'être quelquefois.
Il n'y a pas de lien entre la participation renforcée, ce qui est une bonne chose, oui, et la prise en compte de l'évolution du monde, notamment Trump et les Chinois. On en est très très loin de ça.
Vous, Dominique Schäuble, vous considérez qu'au contraire, il y a quand même une perception précise d'un basculement du monde.
J'ai le sentiment, mais je veux dire, nous n'avons pas de données chiffrées ni d'enquête sur la question, mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait dans les débats quelque chose dans les différents pays quelque chose de nouveau. En revanche, si on voit dans tous les pays européens l'affaiblissement des deux anciens grands partis qui organisaient l'Europe, comme on l'a vu en France, je crois tout de même qu'il y a des distinctions assez nettes dans les différents pays en fonction de leur histoire. Et l'urbanisation, Orban, c'est tout de même autre chose que Salvini. Et bien sûr, la France et l'Italie ont été les pays qui ont eu le parti communiste communiste le plus nombreux et le plus stable. Et donc, il y a un vote protestataire qui maintenant se porte sur l'extrême droite. Mais en même temps, Orban ou la Pologne, c'est tout de même la remise en... Il y a l'élection, mais il n'y a pas le respect des minorités. Tout de même fait partie de la démocratie. Il change le tribunal constitutionnel quand celui-ci prend des décisions qui ne vont pas. Enfin, il y a vraiment une remise... Il y a un antisémitisme et une xénophobie extraordinairement vivace. Et donc, il y a tout de même une remise en cause d'aussi la dimension, disons, démocratique qu'avait le projet européen à l'origine. Alors, le projet européen, évidemment, a considérablement changé du fait de la situation géopolitique qui fait que l'ennemi autour duquel il s'était construit, c'est-à-dire l'Union soviétique, n'existe plus. Et en plus, le sentiment qu'il ne fallait plus que revienne quelque chose comme l'équivalent de la Shoah, tout ça est devenu très loin et le projet européen est tout à fait transformé. Mais il y a une autre transformation qui est due aux anciens pays de l'Est qui tout de même ne partagent pas les mêmes valeurs qu'a des pays de l'Ouest. Et ça, il ne faut pas l'oublier dans l'analyse qu'on peut faire de ces élections.
Gérard Courtois, puisque nous parlions à l'instant de l'Est de l'Europe, chez ces extrêmes droites européennes, il y a une vraie divergence, c'est leur relation à Vladimir Poutine, notamment si l'on pense entre Matteo Salvini et la Pologne.
C'est un des points de clivage entre les différents groupes des droites, de cette nébuleuse de droite radicale. Je voulais ajouter deux points qui, à mon avis, sont essentiels pour les mois à venir et qui prolongent ce qu'on a déjà dit. Ni Merkel ni Macron ne pourront avoir le dernier mot dans la configuration actuelle. Donc, le jeu est beaucoup plus ouvert que précédemment. Et la deuxième question, à mon avis, qui va être essentielle dans la construction des pouvoirs à Bruxelles dans les semaines et les mois à venir, c'est est-ce qu'on va aller vers une sorte de nouveau compromis historique PPE, socialiste et potentiellement les centristes de l'ALD, LDE, ou bien est-ce qu'on va aller vers des compromis à géométrie variable en fonction des sujets, ce qu'évoquait Hubert Védrine précédemment, qui à ce moment-là pourraient inclure par hypothèse les écologistes. Parce que dans...
Voir les populistes.
Voir les populistes.
Certains d'entre eux.
Certains. Mais en tout cas, voilà, est-ce qu'on est dans une restructuration un peu rigide autour de trois forces plutôt que deux, ou est-ce qu'on est dans une géométrie beaucoup plus ouverte et beaucoup plus qui nécessite beaucoup plus de d'habileté tactique des uns et des autres,
où l'on aura compris qu'il reste beaucoup de points en suspens sur cet avenir de l'Europe. C'est pourquoi on se quitte en musique comme toujours avec Que sera, sera, la chanson du film L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock avec James Stewart et Doris Day. Demain n'est jamais bien loin, laissons l'avenir venir, qui vivra verra. Merci beaucoup à tous les quatre, Hubert Védrine, Dominique Schnapper, Gérard Courtois et Aurélie Filippetti. Merci à Luc-Jean Reynaud qui, comme toujours, a réalisé cette émission, à Marine Beccarelli qui l'a préparée avec moi. À la technique aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson, merci à lui. À suivre tout de suite Caroline Bouet qui va nous proposer un déjeuner de fleurs avec un spécialiste des plantes comestibles. Et quant à moi, je vous dis bien sûr à dimanche prochain, 11h. Passez une excellente semaine à l'écoute de France Culture. What will be when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, now I have children of my own, they ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be.
will be. Que sera, sera.